Salut les joueuses, salut les joueurs, nous sommes en février 2026 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle des jeux de société. Je suis Élodie et je suis accompagnée de Caducée. Bonjour Caducée.
Et bonjour Élodie.
Tout va toujours bien pour notre troisième interview du premier jour ?
Toujours, toujours.
Et nous accueillons non pas une mais deux invités. Il s'agit de Ervin. Salut Ervin.
Salut.
Et Élodie Clément.
Salut. Salut.
Et donc, comme pour chacun et chacune de nos invités pendant le festival, on va attaquer par le petit fil rouge. Donc, je laisse Caducée.
C'est la première question. C'est un portrait chinois, donc vous répondez l'une après l'autre comme vous le souhaitez. Si vous étiez une mécanique de jeu ?
Elles sont dures aux questions là dès le début.
Je serais de la carte à combo.
Ok.
Ouais.
Je sais pas.
Ça, c'est aussi une réponse. Ça peut marcher. Si t'as rien qui te vient, il n'y a rien qui te vient.
C'est difficile parce que j'aime beaucoup découvrir plein de mécaniques différentes. Donc, j'ai l'impression de ne pas avoir tout découvert. Et j'ai pas encore de vrai coup de cœur ou de trucs qui matchent vraiment. C'est un peu tout un ensemble que j'aime bien.
Ok. Si vous étiez un thème de jeu,
je pense que je serais un thème. C'est pas du tout le genre de jeu auquel je joue, mais je serais un thème horrifique. C'est un peu parce que je trouve que ça me manque. J'aimerais bien avoir les flippettes en jouant à un jeu de société. Tu vois, je serais un truc zombie, mais vraiment un peu plus qui te fait vraiment tramponner à la table de peur, quoi. Tu vois.
Moi, je pense que je serais, ça va pas te surprendre, Élodie, mais je suis une petite grenouille qui va fabriquer plein de trucs et collectionner plein de petits goodies et gadgets dans tous les sens, un peu tinker, tout ça.
Ça nous étonne pas non plus.
Et donc, si vous étiez un élément de jeu ?
Je serais un objet dynamique, tu vois, je serais un rouage ou je serais... un rouage, c'est pas mal, sur un plateau de jeu, tu vois.
Moi, quelque chose de... Un peu comme un rouage, mais pas vraiment quelque chose qui paraît insignifiant, mais qui en fait, on le voit pas, mais sert à faire en sorte que ça fonctionne bien. C'est un peu bizarre et peut-être un peu mégalo de dire ça, mais un peu sous les radars, mais en fait, c'est un élément important qui facilite et fluidifie l'expérience de jeu. Ce sont dures vos questions.
Et la dernière, elle est pas mal aussi. Et si vous étiez un jeu ?
Bah si, je pense que je serais The Mind. Au final, il n'y aurait pas de rouage dedans ni rien, tu vois, ça contredit tout ce que j'ai dit avant. Mais si j'étais un jeu, je serais The Mind, ne serait-ce que parce que ça génère une expérience sociale, tu vois, particulière autour de la table et ça m'intéresse, quoi.
Alors, j'ai pas le nom du jeu en tête, mais je pense à un vieux jeu qui a plus de 20 ans où on joue avec de la pâte à modeler. C'est un jeu où on va créer des petits monstres en fonction des contraintes qu'on a et une fois qu'on a fini, on peut écraser notre monstre. Mmh. Et ce côté un peu créatif, en même temps, on recommence, on détruit, on recrée, on détruit, on recrée. Voilà. J'ai plus le nom du jeu.
Je serais intriguée de connaître parce que moi je jouais à Écrabouille, tu vois. Tu vois ce jeu ou pas ? C'est un espèce de jeu de course où tu incarnes des mouches et tu peux les écraser tes adversaires violemment.
Faut qu'on fasse un échange de jeux là parce que moi aussi ça m'intéresse.
On essaiera de chercher de notre côté aussi.
Alors là, on va commencer avec quelque chose d'un peu plus facile. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît ?
Ah, ça, je connais. Eh ben bonjour, moi je m'appelle Élodie Clément, je suis autrice de jeux de société depuis 2018, mais en vrai je suis en temps plein dans ce travail que depuis un an et demi, donc c'est très récent. Et à côté de ça, toujours en lien avec le jeu de société, j'enseigne maintenant dans une école qui s'appelle le Board Game Campus, qui est une école de création de jeux de société sur Bruxelles qui a ouvert ses portes en septembre de l'année dernière. Et à mes heures perdues, j'écris et je donne des conférences sur les femmes dans le milieu ludique.
C'est bien, tu viens de nous faire tout le fil rouge de l'interview. C'est parfait. Ah oui. Voilà.
Une belle introduction.
Je connais bien ma fiche.
Je ne la connais pas aussi bien que toi. Mais alors moi, je suis Ervin, je suis directrice artistique et illustratrice freelance. J'accompagne un peu les maisons d'édition à développer leurs jeux sur plein de petites facettes du travail éditorial des jeux. Et je m'amuse bien, je suis très créative, très manuelle, tout ça. Et à côté de ça, je suis aussi cofondatrice de la charte des illustratrices ludiques. Je fais partie du conseil collégial et je suis aussi marraine d'Accessi Jeux. Donc je participe à la sensibilisation des droits des artistes et à la sensibilisation de rendre les jeux accessibles aux déficients visuels et autres handicaps.
Alors là, on vous a invité toutes les deux parce qu'il y a une grosse actu en ce moment, enfin depuis un mois et demi. Hein, c'est la sortie du Dixit Kids sur lequel vous avez œuvré toutes les deux. Comment ce projet vous est tombé dans les bras ?
Waouh ! C'était pas prévu du tout. Alors, pour la base de l'histoire de Dixit Kids, il y a Théo Rivière qui fait de la méditation. Il se réveille d'une session de méditation. Enfin, il se réveille. Non, normalement, tu dors pas, mais il sort d'une session de méditation et il dit « Ah, je crois que j'ai une idée qui serait parfaite pour un Dixit Kids. » Et on commence à travailler sur cette idée dans la journée même. Et je crois que 3-4 jours après, ou même moins que ça, on envoie notre proposition à Libellude sans savoir s'ils cherchent une version kids de Dixit et sans savoir si ça leur plaira, bien sûr. Et ça s'est goupillé assez rapidement, quoi. Et du coup, on s'est mis à travailler dessus après dans la foulée. Mais ouais, c'est la première impulse, c'est une séance de méditation.
C'est original.
Oui.
Oui.
Et puis moi, je suis arrivée derrière, ça s'est passé assez vite aussi. Je pars de chez Blue Orange pour démarrer ma vie de freelance. Pile au moment où il y a Packet Chips qui sort. Donc j'ai travaillé sur la direction artistique, les illustrations et les graphismes. Et en fait, j'ai reçu quelques semaines après être lancée dans le bain du freelance et de « Est-ce que je vais réussir à rester un petit peu dans le monde du jeu ? J'aimerais vraiment beaucoup. » Bah, j'ai Mathieu, Mathieu Aubert qui m'envoie un message. « Est-ce que ça te dirait de bosser sur ça avec nous ? » Parce qu'il a bien beaucoup aimé travailler avec moi sur Packet Chips. Et je fais « Oui, grave !» Et c'était parti.
Et donc, question qui en découle, dans quel état d'esprit on est quand on travaille sur l'adaptation d'un jeu qui a été vendu à plusieurs millions d'exemplaires ?
Et bah, comme ta phrase le souligne, ou en tout cas on peut penser à ça, stressé.
Ah bon ?
Tu vois ? Ouais. Particulièrement stressé. En fait, pas stressé tout de suite parce que on travaille depuis Bruxelles, en tout cas avec Théo. Donc il y a un peu un sas où on est à distance des gens avec qui on travaille. Donc en soi, on est en train de brainstormer et de faire les premières itérations dans notre appart. Globalement, je connais mon appart, je ne suis pas très stressée de travailler dedans. Mais ça devient très concret à partir du moment où, au bout d'un an de premier travail à distance, on se retrouve pour la première fois dans les bureaux de Libellude pour une session de travail sur place de 2 jours, enfin un petit week-end. Et là, tu te rends compte de l'ampleur du projet. Parce qu'on fait une première réunion jour 1 où il y a entre 10 et 15 personnes qui viennent s'asseoir autour de la table pour écouter le pitch et savoir comment ça va se passer. Et j'ai jamais autant transpiré de ma vie. C'est-à-dire que c'était... Il y avait plein de gens dont j'admirais le travail qui étaient là, qui écoutaient pour savoir si ça allait, quelle direction prendre, s'ils étaient en accord avec les directions qu'on allait prendre et tout ça, et pour avoir une présentation globale pour la première fois avec nous sur place et tout, de ça. Et il y avait notamment parmi ces personnes Jean-Louis Roubira, dont je suis très très fan. Donc il y avait un peu le truc de oh, je veux être validée par cette personne, s'il te plaît. Et donc il y avait énormément de stress. Donc c'est devenu très stressant et très concret à partir de, je dis un an, mais c'était un peu moins d'un an. On a fait les premiers mois à travail à distance chez nous et après, il y a eu du passage en maison d'édition sur place.
Moi, ça se rapproche un peu de ce que tu dis, mais on est toujours un peu différents. Moi, j'ai eu beaucoup de pression, enfin, que je me suis mis moi-même parce que je démarre à mon compte et d'un seul coup, j'ai un projet énorme qui me tombe sur les bras. C'est une opportunité énorme, mais en même temps, on me fait confiance. Du coup, c'est très stressant. Et du coup, j'ai la volonté de bien faire. Et en même temps, je suis un peu perdue par tout ce qui se passe. Et c'est pareil quand je suis allée. Moi, je suis allée assez vite dans les locaux pour faire une réunion de travail. J'ai pas eu autant de monde, mais aussi des personnes dont j'admirais le travail. Et toujours. Waouh, en fait, c'est bien plus que ce que j'imagine. Il faut y aller. Et en même temps, ben, tout le monde me fait confiance et me parle comme si j'étais réellement quelqu'un qui avait les compétences pour travailler. Du coup, ça a été extrêmement agréable de bosser avec l'équipe. Et ça m'a tout de suite rassurée. Mais toujours ce truc tout au long du projet de « Ok, il faut vraiment être à la hauteur, c'est un Dixit. Il faut le faire, le Dixit.
» Et du coup, concrètement, comment vous avez travaillé sur ce jeu ?
Alors,
oui, là
je m'en étouffe. C'est une vaste question. Globalement, nous, ça a suivi, côté auteur, en tout cas, le même process que ce qu'on fait pour les autres jeux. Donc, on a beaucoup travaillé, remis en question, repaufiné la mécanique pendant 2-3 ans de développement. voilà, avec des choses beaucoup plus défrichage au début et des choses beaucoup plus affinées à la fin. La mécanique et le thème, parce que nous, on arrivait avec un thème qui était un peu angoissant avec Théo à la base. C'est-à-dire qu'on avait des lapins qui étaient tous enfermés dans des cages et il y avait un grand méchant qui était censé débouler à un moment donné et il fallait essayer de les libérer avant que le grand méchant déboule parce que s'il arrive, ils restent prisonniers jusqu'à la fin de leur vie. Donc, niveau jeu enfant, on n'est pas sur un curseur... Tu vois ? Alors, il y avait déjà les notions d'émotion et tout ça. Chaque lapin représentait une émotion, tout ça. Mais on était dans un truc beaucoup plus glauque.
Oui, voilà. Il y a une dissonance entre... t'as un grand méchant, mais tu dois libérer le lapin super heureux.
Oui, ouais. C'était trop bizarre. Mais bon, voilà. Donc, on a travaillé beaucoup la méca et le thème. Un des trucs qui a été particulier à ce projet, par contre, et que ce à quoi moi, je ne m'attendais pas, c'est qu'on a aussi contribué aux rédactions de pitch des cartes. Alors, un peu naïvement dans ma tête, je me suis dit, ça c'est la popote exclusive de Monsieur Jean-Louis Roubira, puisque ça a été son travail pendant un temps de faire des choses très calibrées d'un point de vue des illustrations en mode test de Rorschach pour des gens. Et donc, je me suis dit, il est plus à même que n'importe qui d'autre pour faire ce travail ultra fin de je vais rédiger des pitchs qui permettent d'être aux gens d'interpréter les images de 3-4 manières différentes parce que ça va évoquer telle émotion, tout ça. Et en fait, bien sûr, il en a fait, mais on a dû en faire aussi. Et ça, je m'y attendais pas du tout. Donc, on a eu des devoirs. C'est-à-dire que c'est le seul projet jeu où on a une formation pour savoir comment rédiger des pitchs adéquates et que ça soit le plus efficace possible, qu'on perde pas trop de temps là-dessus, parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes.
Et oui.
Donc, si on perdait du temps, ça allait être compliqué pour la suite. Et on a eu des devoirs par rapport à cette formation. Donc, on avait des pré-pitchs à rédiger avec Théo. Je sais pas si t'en as eu.
J'en ai fait aussi pas mal.
T'en as fait aussi.
Il y a des petits trèfles dans les cartes, voilà. Pour cette raison.
Et on avait des réunions correction de nos pitchs. Donc, parfois, on nous disait « Ah, ça, c'est super. Par contre, ça, c'est nul à chier. On ne va pas garder du tout. » Et donc, du coup, c'était vraiment, j'avais des devoirs, quoi. Et ça m'a appris plein d'autres trucs. Mais c'est très, très, très cadré et très, très, très précis. De travailler sur du Dixit en tout cas. Donc voilà.
Et donc, ça, ce sont les pitchs qui sont ensuite envoyés aux illustratrices pour avoir les cartes.
Voilà, c'est ça.
Ils ont retravaillé un petit peu avant.
Ouais.
un petit peu. Est-ce que tu as un exemple comme ça à nous donner pour que du coup il y ait quelque chose d'un peu concret pour.
De pitch de cartes ?
Ouais.
Moi j'avais fait un pitch, alors j'ai plus la phrase exacte, mais c'était de nuit, on a un semblant de toit enneigé et en fait quand on les regarde de plus près, c'est des chouettes. Blanche.
Elle est magique cette carte.
Mais du coup, je sais plus comment je l'avais formulée, mais en gros le but c'était de faire une phrase assez concise, elle est deux maximum, et qui évoque globalement, visuellement, que tu puisses te projeter en lisant cette phrase sur à quoi pourrait correspondre l'illustration qui collerait à cette phrase.
Et t'as déjà la notion d'émotion aussi dans le pitch ou
ouais, en fait on avait des tableaux Excel énormes dans lesquels on avait toutes les notions, parce qu'il y a des émotions mais aussi des sensations de chaleur, froid, etc. Donc c'était des notions. Et on avait un gros tableau et il fallait recouper, il fallait que X notions soient recoupées au moins X fois par carte chacune. Et donc on avait des dispatchs à faire de trucs, voilà. Donc il fallait que ça rentre dans des cases et que ce soit clair et précis en termes de phrasé. Autant dire qu'il y a eu des crash tests au début, c'était pas dingo. Et surtout, moi j'avais des idées, les trois quarts de mes idées, c'était autour de la bouffe. Donc on m'a dit à un moment donné, il faut changer de thème. Parce qu'en fait, on peut pas... C'est pas un encyclopédie de...
Un Dixit marmiton.
C'est pas un top chef qu'on est en train de faire. Enfin, tu vois, faut innover.
Surtout qu'il y a une notion, c'est la fin. Donc si toutes les cartes correspondent à la fin, on peut plus jouer.
Ça pose problème.
Et sur le choix des notions, justement, comment vous avez fait ? Parce que c'est hyper fin. Donc juste pour rappel, dans le Dixit Kids, on va jouer en coopération autour des émotions. Pour ceux d'entre nous qui ne l'auraient pas essayé encore... Faut l'essayer, hein. Allez-y, jouez-le. Mais comment vous avez fait ce choix de toutes les notions ? Et après, on parlera sur comment elles ont été mises en image.
Nous, on a fait déjà une pré-liste chacun de nos côtés des notions qu'on avait envie d'aborder ou qui nous semblait logique d'aborder avec des enfants, en essayant de trouver les bons mots et les bonnes notions qui ne soient pas trop chiadées non plus, parce que forcément, on a un lexique qui est beaucoup plus vaste quand on est adulte qu'enfant. Il y a des trucs, c'est pas nécessaire de les apprendre à 5 ans ou à 6 ans. Ça n'a pas tellement aidé dans la cour de récré ou dans la vie à ce moment-là. Donc on avait une pré-liste. Il y avait déjà pas mal de choses qui se recoupaient dans ce qu'on avait noté. Et après, il y a eu pas mal de réflexions aussi du côté Jean-Louis et de l'équipe pour savoir laquelle serait la plus pertinente, etc. Donc on a dû filtrer un peu certains trucs aussi parce qu'il y en avait trop de différentes. On se dire, il y a quand même pas mal de cartes, mais il va falloir réduire. Ouais. Mais ça s'est fait assez naturellement.
Et du coup, maintenant, on va parler de ta partie, Erwin, sur le... Donc, tu étais directrice artistique. Oui. C'est quoi le métier de directrice artistique? Parce que c'est un métier qu'on connaît moins.
J'ai tendance à résumer la direction artistique comme c'est donner l'âme du jeu, dans le sens où on a un prototype, on a une maison d'édition, on a un public, mais il faut qu'il ressemble à quelque chose, ce jeu, et qu'il réponde à ces trois enjeux-là. Faire un jeu qui cible le bon public par rapport à son gameplay, qui accompagne aussi bien le gameplay et qui corresponde aussi à la vision éditoriale de l'éditeur. Et du coup, ça va être de dire, ok, bah là, en l'occurrence pour Dixit Kids, c'était analyser la gamme de jeux Dixit, faire en sorte que Dixit Kids s'intègre dans cette gamme tout en s'en différenciant suffisamment parce qu'on est sur un jeu enfant et c'est pas le cas des autres jeux de la gamme. Donc, que visuellement, quand on le voit, on fait mais oui, c'est un Dixit, mais c'est pas le même Dixit, c'est un Dixit pour les enfants. Donc ça va être choisir ça, déterminer par exemple les gammes de couleurs, les ambiances, les styles, ensuite trouver les artistes qui vont travailler dessus, là il y a 4 illustratrices, et ensuite les driver, enfin, à partir des petites phrases de pitch de cartes, développer ce pitch pour essayer de faire un set qui soit équilibré dans les couleurs, dans les plans, dans les lumières, les ambiances, les lieux, les typologies de personnages, des personnes âgées, des personnes, des petits-enfants, des personnes avec des typologies de peau ou des origines complètement différentes, faire des cartes qui sont incarnées, des cartes désincarnées. Ça va être tout cet équilibre-là. Et donner ensuite, une fois qu'on a fait cet équilibre, c'est pour chaque carte, développer cette petite phrase de brief. Par rapport à ces critères-là et faire un brief beaucoup plus complet pour que l'illustratrice arrive à se projeter et fasse une carte qui ne correspond pas non plus à l'évidence parce qu'on veut quelque chose qui soit aussi créatif pour la personne et qui réponde aussi aux enjeux du gameplay et du game design du jeu.
Donc là, tu as déjà une notion de cadrage aussi
Oui, pour essayer de ne pas avoir que des plans de face entre la tête et le ventre, hein. Avoir des personnages en entier, des zooms, des choses qui sont beaucoup plus grandes où en fait on voit même pas des personnages, ils sont trop petits, la maison elle est trop loin, ou avoir vraiment des choses très diverses et variées dans tout le set pour que ce soit pas un set de cartes très monoplan, monovisage, monocouleur.
Et donc, tu disais qu'il y avait 4 illustratrices sur le projet. Il y avait une volonté de mettre en avant le travail de femmes.
C'était une volonté de l'éditeur de prendre 4 artistes plutôt qu'une seule personne. Moi, c'était une volonté de travailler avec des artistes qui n'avaient pas déjà travaillé dans le milieu du jeu. J'essaye le plus possible dans mes différents projets parce que je trouve que dans le jeu vidéo, dans le concept art, dans l'illustration littéraire ou autre, il peut y avoir des talents qu'on n'exploite pas forcément dans le jeu société et je trouve ça hyper intéressant. C'était un peu un hasard que ce soit 4 femmes, mais du coup ça me fait très plaisir de dire il y a 4 illustratrices dans le jeu. j'avais espoir de faire 2 personnes françaises et 2 personnes à l'étranger. Par un concours de circonstances, le planning, tout ça. Il y a une seule personne qui est à l'étranger, c'est Emily Peck qui est coréenne. Les 3 autres sont françaises et sont présentes là au fiche.
Est-ce que tu pourrais les citer?
Nous avons Sepio, Mélanie Bardin, Iris Winker, qui pour son pseudo Lemon Juice Day, et Lucie Dessertil, et du coup la coréenne Emily Peck.
Pourquoi tu les as choisies?
Avant de les choisir, il y a toute une phase de recherche de quel est le style qu'on veut donner au jeu. Il y a des recherches de est-ce qu'on veut quelque chose qui soit très rond, très à plat, mais ça, finalement ça faisait trop bébé, c'était un âge trop bas par rapport à la cible du jeu. Est-ce qu'on veut quelque chose qui va se rapprocher un peu du dessin animé avec des textures, des aplats, des choses un peu vivantes et ça correspondait pas tout à fait à la vision, c'était là un petit peu trop âgé. Et du coup, on est parti sur un style un peu épuré avec des formes assez douces, quelque chose d'assez rond, mais avec un petit peu de détails quand même pour apporter un petit peu de profondeur. Et donc, en faisant ces recherches-là, j'avais déjà repéré quelques artistes que, quand on a choisi la direction, j'ai contacté et je suis allée chercher d'autres personnes parce que forcément, il y a des gens qui ne sont pas dispo dans le planning. Donc, c'était toujours un peu le défi. Et donc, petit à petit, à force de recherche, on trouve les quatre personnes qui correspondent au projet. Je ne les ai pas. C'est un peu des découvertes. Il y en a certaines, c'est des découvertes que, sur le moment. Il y en a d'autres, je suivais déjà leur travail. Ça, c'est un peu de tout.
Oui, bah, c'est Pio, on l'a déjà pas mal vu sur le jeu de société. Elle a un style qui est hyper reconnaissable.
Et en même temps, quand je l'ai choisie, elle n'avait pas encore sorti de jeu. Il y en avait... Après l'avoir contactée, enfin après avoir commencé à la mettre dans mes moodboards, je me suis rendu compte qu'il y avait un de ses premiers jeux qui était en train de sortir. Mais je ne savais pas à ce moment-là. Maintenant, il sort forcément, c'est son Xème jeu. Et... Voilà, mais les autres n'ont pas fait d'autres jeux.
Oui, c'est vrai qu'on n'a pas, nous, la notion du temps qu'a duré le projet. C'est combien de temps ?
Je ne vais pas dire de bêtises. Dans ma tête, c'est presque 5 ans, mais je ne sais pas.
C'est 5 ans pour toi parce que moi, j'ai commencé il y a 4 ans. J'ai bossé pendant 3 ans dessus, mais ça fait un an que le jeu et on bosse quasiment
c'est
dessus.
C'est ça, ouais. Donc il y a un décalage certain entre le moment où on a commencé à travailler dessus et le moment où le public le rencontre.
Et toi, dans ta tête, t'es déjà sur d'autres projets, t'es déjà sur d'autres choses, alors que nous, on découvre seulement là récemment en fait tout le travail qui a été fait depuis 5 ans. Il y a un sacré décalage en fait.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça a été aussi un long temps de gestation où c'est un peu frustrant à un moment donné parce que j'ai envie d'en parler avec des gens que je suis en train de faire ça, mais je peux pas et je peux pas pendant longtemps. Donc voilà. Donc quand les gens te demandent quel est ton actu, et t'as genre un ou deux jeux qui sortent plic-ploc, mais toi tu sais qu'il y en a plein dans les tiroirs et tu. En plus c'est ma phobie. J'ai toujours peur de dire des trucs que j'ai pas le droit de dire. Donc à chaque fois quand les gens te demandent c'est quoi ton actu, je suis là. Comme un lapin pris dans les phares, tu sais, parce que là, l'audio, ça se voit pas. Mais j'ai vraiment, je suis écarquillée, je suis là, je sais pas, il y a des trucs qui vont sortir, mais vu que je sais pas ce que j'ai le droit de dire, donc en fait. Donc les gens sont un peu, il a pas l'air de se passer grand chose. Et là, c'était un peu ça, quoi. Pendant 5 ans, voilà.
Ouais, pour un projet comme ça, j'imagine bien. Alors que toi, t'es déjà sur autre chose, là, il y a cette actualité-là qui est finalement la nôtre, celle du public.
Ouais.
Et on te demande d'en parler beaucoup maintenant, alors que toi, presque dans ta tête, le projet est abouti. Ça y est, c'est toute la phase de gestation est passée. Et on te demande de revenir là-dessus 5 ans après, quoi.
C'est ça.
Ouais, c'est pas évident.
Et donc, on parlait des femmes illustratrices et du fait que, voilà, on a pas mal de personnes féminines dans le projet aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler du rôle des femmes dans le secteur du jeu de société, si c'est OK avec vous ? et notamment par rapport à...
Vous avez 3 heures.
Ouais. Alors, à chaque fois qu'il y a des questions un peu comme ça, on a l'impression que je m'étouffe. En fait, je fais juste un petit peu d'asthme. C'est OK. C'est pas les questions qui me choquent.
Alors, juste pour rappeler, tu l'as abordé, Elodie. Tu vas intervenir dans une conférence qui aura lieu demain, c'est ça, je crois ?
Ouais. Voilà, je crois aussi. J'ai pas regardé mon planning.
Il me semble que c'est demain. Tu vérifieras quand même par acquis de conscience.
J'ai vérifié pour y être. Quoi.
Exactement, c'est mieux. Qui s'appelle Femmes et jeux. Quels enjeux aujourd'hui ?
Ouais.
Donc bon, au moment où vous écouterez l'interview, ça aura déjà eu lieu, mais normalement il y a moyen de le trouver en rediffusion.
Non.
Me semble.
Non,
il y
en a. Alors
non, ce sera pas rediffusé.
Non, on a demandé exceptionnellement à ce que ce soit une conférence soit ni filmée ni captée en audio.
D'accord.
Tout simplement parce que c'est une conférence dans laquelle on amène le public à beaucoup participer et à beaucoup mentionner des anecdotes qu'ils ou elles ont vécues en étant victimes de ou en étant agresseurs de. Et donc, par souci d'anonymat et pour que tout le monde se sente à l'aise et que ce soit un vrai espace safe pour tout le monde, il n'y a ni captation ni enregistrement.
D'accord.
Parce que vu qu'aussi les gens se connaissent beaucoup dans le milieu du jeu, rien qu'à la voix, on s'est dit qu'en fait, ça pourrait gêner certaines personnes. Donc non, il n'y a absolument aucun moyen. Sauf de venir, malheureusement.
Voilà. Bon, vous le saurez un peu trop tard, mais il y en aura d'autres à l'avenir.
Il y en aura d'autres à l'avenir, ouais. L'idée, c'est de multiplier l'expérience dans plein de festivals. Donc, voilà.
Donc après, je ne sais pas si vous voulez un petit peu développer le sujet, justement, de la femme dans le milieu du jeu de société.
Je peux déjà parler du fait que je suis une caricature vivante. Comme ça, on va tout de suite aborder les sujets. Alors bonjour, je suis Elodie Clément, une autrice de jeux de société qui est entrée par la porte des jeux pour enfants et je fais des jeux en Kotora principalement avec mon mari, qui est lui-même auteur de jeux de société. Voilà, comme ça s'est dit. Je le dis sous forme de vanne, mais en fait c'est un truc dont j'ai pris conscience il y a 1 ou 2 ans et j'ai pris conscience que c'était pas un hasard que ça se fasse comme ça aussi pour plein de femmes parce que on n'est pas beaucoup dans le milieu du jeu en tant qu'autrice. Je pense qu'on est en dessous de la barre des 10%, on doit être aux alentours de 8%, quelque chose comme ça. Et on est encore, parmi ces 8%, il n'y a pas beaucoup de femmes qui font du jeu seules, pas beaucoup de femmes qui font du jeu famille, initiée, expert. c'est plus dans du jeu enfant et plus en co-autorat avec des hommes ou avec leur mari qu'on trouve des autrices, en majorité en tout cas. Voilà. Donc, j'ai pris conscience que je faisais partie de ce cliché il y a un ou deux ans. Je ne l'ai pas très bien pris, mais je me suis dit que j'allais faire quelque chose pour, pour œuvrer là-dessus. Je pense que mon parcours est assez symptomatique de ce que c'est d'être une femme dans le milieu du jeu de société. Et depuis l'année dernière, j'essaye d'enfoncer les portes et de montrer que je sais faire autre chose que du jeu pour enfants et autre chose que du co-autorat avec mon mari. Et que je peux faire du co-autorat avec d'autres personnes et que je peux faire du jeu familial et initié. Voilà. Donc je commence à avoir des projets dans les tiroirs qui sont là-dessus, que le public connaîtra d'ici 2-3 ans. Voilà. Donc attendez un peu, mais ça va venir. C'est juste le temps que la gestation se fasse.
Ouais. On a vraiment hâte de voir ce que tu...
Mais du coup, voilà, donc je pense que c'est pour ça que j'aime bien me prendre moi comme exemple là-dessus quand je parle des femmes dans le milieu du jeu, parce qu'en fait, je suis un cliché vivant qui l'accepte et qui essaye de faire quelque chose avec, voilà. Ça me va aussi de faire du jeu pour enfants, il n'y a pas de problème, ça me fait énormément plaisir, c'est pas ça que je dis, et ça me va aussi de travailler avec Théo Rivière, je m'entends très très bien avec, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est essayer de réaliser ça et de se dire, ok, pourquoi, comment ça se fait, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est attendu par le milieu d'édition que les femmes elles aillent plus dans cette direction-là, est-ce que c'est nous aussi qui avons intégré le fait que c'était pas notre place d'aller ailleurs. Il y a un mix un peu de tout, mais globalement les sujets sont là en ce moment.
C'est drôle parce que quand tu en parles, moi, ça fait écho aussi, dans le sens où je suis peut-être pas autant un cliché. Je m'en rends compte, si ça se trouve, oui. Mais je suis illustratrice et on m'identifie beaucoup pour l'illustration jeunesse. Et là, je me rends compte, là, depuis le début de mes rendez-vous à Cannes, à chaque fois, quand on me demande qu'est-ce que tu aimes faire, c'est comment tu identifies ton style ou ce genre de questions, c'est on m'identifie beaucoup comme... illustratrice jeunesse ou animalier ou autre, mais je fais aussi du jeu initié ou enfin je peux faire du familial ou initié, et j'ai fait King Strict Takers par exemple où c'est plus initié avec des inspirations de Tim Burton que j'aime beaucoup, enfin il y a plein de possibilités, j'aimerais trop explorer plein de choses, genre, vraiment. Mais d'où ça vient? Est-ce que c'est par facilité? Est-ce que c'est parce que c'est fait comme ça?
Ouais, c'est un peu difficile de mettre le doigt sur tout, il y a plein de facteurs, donc c'est un peu difficile de...
Et puis, en tant que femme indépendante aussi, il y a toujours... est-ce qu'on nous prend vraiment au sérieux? J'ai l'impression que là, cette année, maintenant qu'il y a Dixit Kids qui sort et que j'ai dans mon sac, que je montre, regardez, j'ai fait tout ça, ça se voit pas, mais regardez sur ma tablette, là, tout ce que j'ai fait. Il y a quelque chose qui valide mon...
Ton expertise.
Mon expertise.
Ton savoir, tes compétences.
Ouais, mes missions, les services que je propose, en fait. Et il a fallu attendre ça pour que je me sente, moi, déjà, il y a moi, me sentir en phase avec ce que je suis vraiment en train de proposer. Arrêter d'avoir un syndrome de l'imposteur, même s'il est quand même toujours un peu là. Mais aussi qu'on se dise, ok, non, c'est pas juste en train d'essayer de se survendre. Il a vraiment fait quelque chose. Et puis, c'est un Dixit qui... Ça aide beaucoup, mais c'est pas le cas de tout le monde, c'est compliqué. Moi, je vois des amis illustratrices qui galèrent à avoir des rendez-vous. C'est qui, hier, avec le salon fermé, on se dit, en fait, on est venu pour rien, on a perdu une journée, on a perdu des sous, c'est déjà un métier précaire, c'est compliqué, quoi. Il y a à la fois ce truc de, on nous met dans une case, et à la fois, c'est compliqué de se faire entendre en tant que professionnel.
Est-ce que vous pensez qu'on a toutes et tous un rôle à jouer, justement, pour que les femmes soient mieux représentées dans notre milieu? Est-ce qu'on peut imaginer que sur tous les plans d'action, que ce soit de la joueuse jusqu'au professionnel, on a toutes et tous un rôle à jouer pour que les femmes soient mieux accueillies, mieux représentées? Est-ce que ça peut être réfléchi?
Vraiment, et à toutes les échelles, c'est possible. Alors là, dans des échelles un peu plus grosses, il y a des structures comme Safe in Game qui se montent, il y a le féminaire qui a été lancé par Dorine et Anouk l'année dernière, il y a plein de choses différentes, mais sans aller jusque-là, si on veut faire des trucs plus à notre taille au quotidien.
Parce qu'il faut bien commencer par quelque chose.
Ouais, voilà, parce qu'on n'est pas tous obligés de monter des assos.
Bien sûr, bien sûr.
Il y en aura beaucoup, au bout d'un moment, beaucoup plus que de personnes dans le jeu de société, ça va être compliqué. À taille humaine, on en parle du coup pas mal dans la conférence, il y a des trucs de... essayer déjà de s'instruire autour des questions de sexisme de manière générale, de savoir identifier des situations sexistes au quotidien. Parce qu'on pense souvent, quand on parle des violences sexistes et sexuelles, à des agressions sexuelles et tout ça. Alors oui, on est tous et toutes d'accord pour que ça, c'est le climax du truc et que c'est horrible. Mais en vrai, il y a un truc de... C'est plein d'autres choses.
Il y a plein de sexisme, de violences quotidiennes.
C'est ça, et des trucs beaucoup moins obvious que des cas de d'agression sexuelle. Voilà, des trucs beaucoup plus vicieux, beaucoup plus difficiles à cerner au quotidien, mais qui sont là tout le temps et qui sont des réflexes de comportement en plus chez tout le monde. Donc c'est un peu un problème, c'est-à-dire que nous on s'auto-flingue en même temps pendant cette conférence avec Chloé et Anouk. Sur des exemples qui nous sont persos, où on pratique aussi du sexisme envers des femmes de manière générale. Moi-même, je pratique envers des femmes. Voilà. Alors, il y a mieux, il y a le canevas, il y a le foot, vous pouvez pratiquer plein d'autres choses. Mais par réflexe, je pratique le sexisme envers des femmes. Typiquement, j'ai plus de facilité, je pense, ou de réflexe à couper la parole à une femme qu'à un homme qui parle. Alors que moi-même, je suis saoulée quand on me le fait. Mais c'est comme ça, j'ai baigné dedans ce truc-là, c'est un truc systémique, ça fait partie de la société, c'est partout. J'ai tendance à avoir plus d'a priori quand je vois des femmes ultra prêtées qui viennent parler, de me dire peut-être que le contenu va être moins bien, alors que quand c'est une femme qui est moins maquillée, je vais me dire, elle est sûre de... À mon avis, son contenu, il est hyper béton. Franchement, portez le rouge à lèvres que vous voulez, on s'en fout, tu vois. Mais il y a vraiment ce genre de réflexe-là qui est hyper intériorisé par plein de gens. Et donc oui, il y a plein de petits trucs qu'on peut faire au quotidien, et ne serait-ce que déjà à une basse échelle, c'est d'aller se renseigner sur qu'est-ce que c'est le sexisme et quels sont les différents cas de sexisme qui existent, pour pouvoir ensuite les identifier dans mon job ou dans ma vie privée, et pouvoir aller, si je m'en sens le courage, voir la personne qui vient de faire cette réflexion et dire « attention, c'était pas ouf, cette vanne, enfin tu vois ». Ou même s'auto-fliquer soi-même en disant « Ah, putain, là, je viens de couper trois fois la parole à une femme, alors qu'elle essaye de parler depuis tout à l'heure, c'est peut-être pas ouf, quoi. » Donc, c'est des petits détails comme ça. Et après, si vous êtes ultra motivé et que vous voulez monter des séjours type féminaire où on regroupe des autrices entre elles ou des safe zones dans lesquelles les autrices peuvent se rencontrer entre elles et se montrer leur proto, faites-le. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là. Vous pouvez juste déjà vous auto-critiquer, vous regarder là-dessus.
Même des week-ends entre joueuses.
Oui,
aussi.
Voilà.
Parce que.
Bien sûr.
On voit bien, c'est pas du tout la même ambiance autour de la table.
Ouais, c'est ça. Donc voilà, non, il y a plein de petits trucs et je pense que c'est important de rappeler aux gens que ce qu'on voit dans les médias et ce qui nous choque le plus et ce pour lequel on agit le plus, parce que c'est au plus pressé, c'est le plus urgent, c'est les agressions sexuelles, c'est pas les seuls cas de situations sexistes au quotidien. Il y a 15 000 autres trucs et il faut être un peu éclairé là-dessus, se poser un peu des questions, quoi.
Qui est encore une grosse part d'éducation.
Ouais, beaucoup.
D'identifier tous les biais dans lesquels on a grandi et qu'on n'a pas encore forcément identifié même nous-mêmes.
C'est ça, et pas mal d'auto-analyse. Voilà. Moi, je me présente aux étudiants du Board Game Campus maintenant en disant « Bonjour, je suis Élodie Clément, je suis une femme blanche hétérosexuelle et j'ai un sexisme latent et probablement un racisme latent, c'est même certain. » Et voilà, enfin, tu vois, mais... C'est de reconnaître un peu ça, quoi.
Alors, je ne vais pas paraphraser tout ce que tu as dit parce que j'étais là à la conférence que vous avez faite à Vichy. Et du coup, depuis, ça travaille un petit peu au quotidien. Tout ça, c'était vraiment trop bien. Allez voir cette conférence demain aussi.
Venez.
J'essaye même d'aller un peu plus loin parce que comme je travaille avec Accessi-Jeux, je vais aussi essayer d'aller un peu plus loin. Ça fait beaucoup à gérer, du coup, mais au-delà des femmes, faire en sorte de... faire attention aussi à ce genre de comportement face à des personnes, des minorités de genre ou des toutes formes de handicap visibles, invisibles et compagnie. En fait, il faut juste être bienveillant entre... Enfin, c'est un mot un peu nul, mais faire attention à la personne qu'on a en face et être respectueuse de ce qu'elle est et ce qu'elle ressent ou perçoit. Peut-être que quelqu'un va percevoir quelque chose d'une certaine manière. Même si c'est pas ton intention, on peut pas nier le fait qu'elle a ressenti quelque chose et qu'elle a ressenti des émotions. Et à partir de là, normalement, ça facilite beaucoup les échanges. Mais si la personne en face n'arrive pas à reconnaître ça, c'est très compliqué. J'ai dit plein de trucs.
C'était hyper intéressant. On va devoir terminer cette interview. On aurait eu encore 15 000 questions à vous poser. On avait encore plein sous le pied. Mais donc, merci infiniment.
Merci à toutes les deux.
Merci, bah, merci beaucoup.
Bah oui, merci à vous.
Chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la sur vos réseaux sociaux favoris. Vous pouvez également nous aider en nous faisant un don. Pour cela, vous trouverez toutes les informations utiles sur la page d'accueil de notre site podcast.proxy-jeu.fr, proxy avec un i et jeu avec un x. On se retrouve très vite sur Proxy Jeux pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout,
jouez bien.